Ben voilà. Avant de commencer, on va quand même présenter les intervenants. Alors, à ma droite, Marie Caillet. Jusqu'à présent, deux titres parus pour sa série L'héritage de Darcer. Un troisième bientôt fini et publié fin d'année, début de l'année prochaine.
Fin de l'année ou début 2013.
À ma gauche, Kai Meyer. Si c'est un premier roman, là, il est déjà dans une grande série, lui, puisque il y a déjà une cinquantaine de livres, je crois, pour adultes, pour jeunes, des livres historiques, des livres fictionnels, en fantaisie, etc. Traduit en 27 langues, ça pose quelqu'un. Il a vendu quelques millions de livres dans le monde. Et La Talente vient de publier sa série Le Peuple des Nuées, dont le deuxième tome, La Lance et la Lumière, vient de paraître. À l'extrême droite, ce qui ne veut rien dire, Emmanuel Nink, qui vient de sortir son premier roman, Border Marge, excusez-moi, parce que c'était écrit dans les marges de vos cahiers, c'est ça, hein? C'est pour ça que ça s'appelle Border Marge. Référence classique, KPEP, littérature, cinéma, musique, etc. Et à ma gauche, Magali Segura, dont une nouvelle avait fait l'unanimité dans le milieu de la science-fiction, puisqu'elle avait remporté et le Grand Prix des Imaginales et le Grand Prix de l'Imaginaire, qui s'appelait Contre la Fatalité, c'était déjà il y a quelques années. Et depuis lors, une série qui s'appelle Leylan, trois tomes. Trois tomes, et là c'est l'intégrale. Et puis, un roman qui vient de. Une nouvelle série qui vient de commencer, et qui s'appelle Le Prix d'Alaïa.
Le premier tome, c'est Le Prix d'Alaïa.
Voilà. Alors, on va parler de. Écrire de l'imaginaire pour les jeunes, raconter ou faire la morale. Moi, je voudrais d'abord savoir. Je vais m'adresser au plus expérimenté de la table, Kai Meyer. Est-ce que c'est une question qu'on se pose quand on écrit ?
No, actually not. I never do think about the moral of the story, or I don't try to impress messages on the reader or anything like that. I just try to tell a story that is gripping and maybe funny in places. I try to be true to the characters and to the drama of the story, but I don't really think about moral.
On va traduire.
Non, je ne pense pas vraiment à l'aspect moral. Je n'essaie pas de transmettre un message à mes lecteurs. Le but que je vis, c'est de raconter une histoire. J'ai compté peu d'humour dans mes livres. Je souhaite que cette histoire soit prenante, soit passionnante pour mes lecteurs. Je me concentre un petit peu sur mes personnages et sur l'aspect dramatique de l'histoire que je raconte.
Est-ce que quand. Je vais demander à Emmanuel, qui est la dernière venue dans le milieu, vous avez proposé un sujet. Castelmo vous donne-t-il un cahier des charges ? Y a-t-il des obligations, des contraintes à respecter quand vous écrivez pour la jeunesse ?
J'ai aucun cahier des charges, je vais faire exactement l'histoire que je voulais et je n'ai pas spécifiquement écrit pour la jeunesse ou les adolescents. J'ai eu la chance d'écrire vraiment l'histoire que je voulais et pour moi, elle s'adresse aussi bien à des adultes qu'à des adolescents.
C'est la même chose, Magali ? Adulte, adolescent, ça vous est égal ?
Oui, je crois qu'on écrit l'histoire qu'on a envie de lire soi-même, et puis après, c'est les autres qui voient des leçons de morale. Mon héros, un petit garçon dans mon histoire, il fugue parce qu'il ne supporte pas la mésentente entre ses parents, qu'ils ne sont pas ensemble. Il va lui arriver mille et une aventures. On peut trouver la morale, oui, fuguer, mon Dieu, c'est pas bien, voilà ce qui arrive plein d'aventures, mais c'est après coup qu'on peut trouver des morales, mais c'est pas, initialement, c'est pas pour ça qu'on écrit.
Est-ce que, Marie, dans votre travail chez Michel Lafon, il y a des choses qu'on a gommées chez vous, des caractères, des personnages qui ne plaisaient pas à l'éditeur, vous avez reçu complètement carte blanche.
Alors non, les personnages, dès que je les ai créés, il n'y a pas eu de personnages effacés. Au contraire, il y en a certains. En fait, c'est la difficulté de prendre un groupe d'aventuriers, c'est qu'il faut donner son importance à chaque personnage. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu tout un travail après, pendant la réécriture du roman, pour affirmer certains personnages. Mais non, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de suppression. Il n'y a pas eu de suppression de personnages. Rien, c'était plutôt des passages trop longs, des longueurs.
Si des corrections il y a eu, c'est des corrections plutôt de style ou de mise en scène, mais pas du tout de morale ou de pédagogie.
Voilà, c'était plutôt des corrections de forme.
Et pourtant, j'ai quand même l'impression, Kai, que tout ce que vous sortez de vous-même à l'écrit n'est pas nécessairement quelque chose qui s'adresse à des jeunes. Alors, comment ça se passe dans votre tête? Vous n'avez pas envie d'avoir des héros qui ne sont pas des héros stéréotypés, des gentils qui ont des quêtes absolument extraordinaires, et vous n'avez pas envie d'avoir des méchants un jour qui sont les héros?
I once had a guy as a protagonist who was, he wasn't really a bad guy, but he was, it was quite a dark character, and but that was in one of my adult books, so I probably wouldn't do that in a young adult book.
Je suppose qu'il est bien.
Alors,
il faut peut-être le...
Alors, j'ai un personnage dans un de mes romans qui n'est pas vraiment un personnage, qui n'est pas vraiment méchant, mais plutôt un personnage obscur, je dirais. Mais c'est plutôt dans un de mes romans destiné aux adultes.
But I, when I began to write books, when I was 23 in 1992 or something like that. I began as a writer for adults. I wrote two crime books, and I wrote a lot of historical novels with just small fantasy elements. So when I began to write for younger readers in 2001, maybe 2000, I never really thought about what I should change in comparison to the adult books. I just made the heroes younger. But the style is more or less the same. The characterization is more or less the same. I think writing is just about emotions and about drama and about conflict. So, and it doesn't really matter if you write for younger readers or for older readers.
C'est une question d'éditeur, alors. Pardon.
Alors, quand
j'estime un peu trop vite que tout le monde parle anglais. Excusez-moi.
Quand j'ai commencé à écrire, je devais avoir 23 ans, c'était en 1992. J'ai commencé d'abord par des livres pour les adultes, par des polars, et puis j'ai fait également des romans historiques avec un petit élément de fantasy. Et j'ai commencé à écrire spécifiquement pour les jeunes en 2000 ou 2001 par là. Et j'ai pas vraiment fait beaucoup de changements au niveau de mes personnages. J'ai modifié un tout petit peu, mais pour moi, le style reste le même, la personnalité de mes protagonistes reste essentiellement la même. Je pense que dans mon écriture, ce qui compte le plus pour moi, c'est de transmettre une émotion, un aspect dramatique, ou de transcrire des conflits. Et je pense que quand on compare la littérature pour les jeunes ou pour les adultes, il n'y a pas pour moi vraiment de différence.
Ce sont les éditeurs qui font les différences. Alors vous proposez un projet, et puis les éditeurs disent « Oh, ça c'est adulte, ça c'est jeunesse, ça c'est young adulte, je ne sais pas. » Et on le met dans une collection particulière. C'est comme ça que ça se passe, Magali?
Pour Laylan, au départ, je l'avais écrit pour une jeune fille de 14 ans. Donc je dois dire que pour moi, la différence qu'il y a entre jeunesse et adulte, c'est qu'il y a peut-être un peu moins de sexe, un petit peu moins de scènes un peu gore, peut-être moins de langage enfin un peu châtié, même si maintenant c'est plus courant, mais il s'adresse autant à des adultes, enfin j'ai L'autre, par contre, c'est vrai que je le vois plus pour plus grand, parce que justement, il y a peut-être ces touches-là qui font que c'est moi qui trouve que c'est plus adulte. Maintenant, mon éditeur, au départ, il voyait pour les deux, c'est bon.
En fait, c'est vrai que chez Bragelonne, il n'y a pas de... Il n'y a pas une section jeunesse, une section adulte, c'est...
Ben, si.
Oui, c'est Castelmore.
Ah,
vous,
oui.
Mais vous, c'est Bragelonne.
Oui, c'est la section adulte, oui. Oui. Mais...
Et vous deux, répondez l'une après l'autre, quand vous avez proposé vos bouquins, on a directement dit c'est pour la jeunesse,
oui.
Ou pas?
Alors, moi, c'était un peu particulier quand j'ai été éditée, parce que c'était un concours pour la jeunesse, et rechercher un roman jeunesse. Donc, le mien, quand j'ai commencé à écrire, je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était plus pour adultes ou plus pour jeunesse, mais il a trouvé sa place dans le secteur de jeunesse de Michel Lafon. Et je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs de tous âges qui lisent, mais moi je le conseille plutôt à partir de 12-13 ans, comme initiation à la fantaisie, en fait. Parce que le monde, je pense qu'un lecteur qui ne connaît pas trop la fantaisie est peut-être moins déstabilisé par le monde, même si ça s'étoffe au fur et à mesure. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile de dire. En tant qu'auteur, c'est difficile en fait de savoir si le livre s'adresse à des jeunes lecteurs, à des adultes plus âgés, c'est à des lecteurs avant tout. Et le plus souvent, c'est l'éditeur qui lit.
Pour moi, c'est vraiment le mélange des genres et le thème de l'histoire qui ont fait que ça s'est retrouvé chez Castelmore, parce que chez Bragelonne, c'est plus de la fantaisie pure et dure. La science-fiction, voilà, c'est tout en fait. Et après, a priori, les histoires de passage d'un monde à l'autre, c'est plus à destination des enfants.
Est-ce que vous savez quelle est la part d'adultes et de jeunes qui lisent vos livres, qui sont dans les collections jeunesse, hein, ou proposées à la jeunesse, Kai?
I'm not sure about the ratio, but I know that. The success of my books in Germany depends very much on the fact that, or comes very much from the fact that a lot of adults read my young adult books. But I don't know any specific numbers. But it could be 1/3 adults, but I'm not sure. I had readings. I had until 2 or 3 years ago, I did a lot of readings in bookstores and at festivals, and usually. There were maybe 2/3 children and teenagers and 1/3 adults in the audience.
Je ne suis pas exactement sûre des nombres pour ce qui concerne en fait l'Allemagne. Je dirais peut-être 1/3 adultes, 2/3 jeunes lecteurs. Jusqu'à il y a une année ou deux, je faisais des lectures dans des librairies ou dans des bibliothèques. Et là, je dois dire que la proportion, c'était environ ça, hein, 1/3 adulte et 2/3 jeunes adultes ou enfants.
Et Magali, c'est ça? Parce que ça n'est pas spécifiquement vos livres
jeunes adultes. J'en ai pas la moindre idée. Maintenant, c'est vrai que quand je dédicace, je m'aperçois que la grosse majorité des gens entre 18 et 20 ans, comme mes héros, maintenant, je sais que j'ai mes plus jeunes lecteurs ont 10 ans. Et que j'ai des vieilles dames qui sont venues me voir en me disant oh, c'est magnifique, c'est merveilleux, donc je suis incapable de vous répondre.
Mais donc souvent c'est bien une question d'éditeur qui décide dans quelle catégorie ou dans quelle case on met certains livres. En tout cas moi je vous conseille, je n'ai pas tout lu de ce qui est sur la table, mais j'en ai lu pas mal et ça convient aussi bien aux adultes qu'aux jeunes, surtout aux adultes qui ont gardé une âme d'enfant, sinon ils ne liraient pas de la fantasy ou de la science-fiction d'ailleurs. Kai disait il y a quelques minutes que il a simplement, par rapport à sa littérature adulte, pour la littérature young adulte, il a rajeuni l'âge de ses héros. Est-ce que dans la littérature jeune, de jeunesse, il faut absolument que les héros soient jeunes? Allez, à vous. Je demande d'abord aux dames.
Alors, je pense pas que ce soit obligatoire, mais c'est vrai que la plupart des œuvres de jeunesse qu'on lit, le héros a entre 16 et 20 ans. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Alors après, je sais pas, il existe peut-être des œuvres qui s'adressent aux jeunes où le héros est plus âgé, mais j'en trouve pas. Donc ben voilà, c'est peut-être pour que le lecteur justement puisse s'identifier au héros, parce qu'il y a toute une quête initiative que généralement le héros commence. Donc je pense que c'est sans doute lié à une question d'identification.
Dans Bord de Marche, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a donc deux mondes et Bord de Marche est un monde fictionnel, donc les héros n'ont pas d'âge techniquement. Le temps n'a pas de prise sur eux, ils peuvent tout à fait se retrouver d'une page à l'autre adultes sans avoir compris ce qui leur est arrivé.
Ça, c'est pratique. Hein.
Et pour les deux personnages qui sont humains, on ne sait pas leur âge. Ils peuvent tout à fait avoir 16 ans. Disons que, comme elle est bibliothécaire, il faut un minimum pour pouvoir faire ce métier. Mais elle peut très bien en avoir 40, puisque son aventure et qu'elle justement retrouve son âme d'enfant dans l'histoire.
Même question à Magali.
Bah, je pense que si un adolescent lit une histoire avec un homme qui a 50 ans, il va forcément avoir du mal à s'identifier. Parce que s'il lit une histoire avec des adolescents à l'intérieur, il se prend pour le personnage ou du moins l'amitié plus facilement. Donc je suis d'accord avec Marie-Caïs, c'est une question d'identification.
Kai?
I think one of the first things I learned from my publishers was that young readers like to read about characters who are maybe 2 or 3 years older than they are themselves. So when I began to write books for teenagers, I usually made them maybe 14, but today I tend to make them 18 or 19. On the other hand, I have written books for adults with 16-year-old protagonists. So it really mixed up. I try to mix the age groups in the books. I also use adult viewpoint characters in those books. I mean, I have two protagonists who are 14, 15, 16, I'm not quite sure. And but there are also one or two viewpoint characters who are adults. So I just try to mix.
Une des premières choses que j'ai apprises de mes éditeurs est que les jeunes lecteurs aiment bien que le protagoniste ait 2 ou 3 ans de plus qu'eux. Alors, quand j'ai commencé à écrire pour les ados, j'ai commencé à avoir des protagonistes qui avaient environ 14 ans. Et aujourd'hui, je suis plutôt passée à des protagonistes âgés de 18 à 19 ans. Et quand j'écris pour les adultes, j'ai des protagonistes qui ont autour de 16 ans. Donc, j'essaie d'effectuer un petit mélange d'âge. J'aime bien également inclure le point de vue d'un adulte, donc dans ces romans, j'ai 2 protagonistes qui ont autour de 14, 15 ou 16 ans, en fait je ne suis pas très sûre, et j'ai également 2 protagonistes qui donnent le point de vue des adultes. Moi j'essaie d'effectuer un petit mélange en fait d'âge.
Je dois avoir à l'heure moi une espèce de jeunesse prolongée, puisque j'aime bien lire la littérature jeunesse, ça me permet de revivre peut-être mon adolescence, c'est ça l'identification à l'envers. En fin de compte, en littérature jeunesse, les héros ne sont-ils pas trop stéréotypés? N'ont-ils pas toujours... Il y a l'âge, il y a le caractère curieux et la quête de quelque chose. Est-ce que c'est pas toujours ça que les écrivains proposent? Est-ce que c'est ça que les jeunes veulent? Magali.
Dans mon premier cycle, oui, Laylan, je dois dire que mes héros sont assez stéréotypés. J'ai même eu beaucoup de mal à faire des défauts à mon héros. Il était absolument parfait. La gourmandise et l'indiscipline sont les seules choses que j'ai trouvées. C'était assez compliqué. Mais je dois dire que c'est peut-être ce qui m'a poussée à faire l'autre extrême, moins réaliste. Et peut-être il est moins adressé à des jeunes pour moi pour ça. Mais je ne sais pas si on cherche forcément un stéréotype comme ça pour chaque livre ou... C'est peut-être l'originalité, justement, qu'on va chercher dans des histoires de fantasy, sortir peut-être un peu du cadre qui est trop courant, ou quand on aime ça, ben, on continue.
Kai, pour les stéréotypes.
Oh, okay. I'm not so sure. I tended to think that they do, but now I'm... Over the last few years, I try to get away from stereotypes. Actually, I tried in the last series I wrote, the last trilogy I wrote, which is not out in France yet. I really consciously tried to write against stereotype regarding the main character. She's actually very, very far away from the characters in those books.
Je ne suis pas si sûre, oui, par le passé. Je pense que j'écrivais beaucoup en stéréotype, mais depuis quelques années, j'ai tendance à m'en éloigner. J'ai une trilogie qui n'est pas encore publiée en France où mon protagoniste, ma protagoniste, une femme, s'éloigne. En fait, moi, je l'ai beaucoup éloignée de ces stéréotypes. Donc, ça dépend, en fait, ça dépend.
Marie-Emmanuelle, même question, les stéréotypes.
Alors moi, c'est un peu comme Magali, mon héroïne, c'est un stéréotype, sauf que c'est tout à fait assumé. Et je me suis beaucoup amusée à la créer. Et en fait, c'est voilà mon héroïne, c'est une princesse, elle découvre qu'elle est une princesse, qu'elle a été adoptée. Elle a 16 ans, il y a un ticket, un pouvoir qui lui tombe dessus. Donc moi, c'était un peu mon idée de départ. Je voulais un peu partir d'un cliché et la faire évoluer au fur et à mesure, en mettant quelques nuances quand même, parce que par exemple, sa quête, elle en a une, mais au début... elle dit, moi, je ne veux pas la faire, donc elle s'enfuit. Elle va retomber dedans, mais elle va pas, au début, elle ne va pas vouloir. C'est aussi son pouvoir qui est en fait un pouvoir qui ne lui sert à rien, parce que en fait, elle se transforme en papillon. Donc voilà, ça, sur cela tout, c'est que bah, elle peut être discrète, mais bon, pour, contrairement à ses ancêtres, elle ne peut pas changer en créature et les puissantes. Et dans mon cas, les personnages qui échappent un peu aux stéréotypes, c'est plutôt les personnages secondaires. Parce qu'il y a beaucoup de personnages secondaires qui arrivent au fur et à mesure de l'aventure. On ne sait pas trop où ils viennent. Ils ont leur histoire qui est un petit peu différente. Ils ont des intérêts qui les font venir dans l'aventure, qui sont différents du héros. Parce que c'est vrai que le héros, il a toujours un petit côté stéréotypé dans un schéma classique, puisqu'il a une quête, voilà, il a tout un apprentissage à faire. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident d'y échapper.
Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai deux types de personnages, des humains qui sont vraiment des stéréotypes. Par exemple, Violette, mon héroïne, est une bibliothécaire déprimée à qui l'aventure tombe littéralement sur la tête. Et de l'autre côté, j'ai les personnages de Bordelage qui, eux, sont à l'origine des grands stéréotypes de carré d'épée, de conte de fées, la princesse, le méchant, les pirates, tout ça, et qui vont évoluer à partir du moment où les humains vont être en contact avec eux.
Je profite de parler de cette bibliothécaire parce que j'ai lu quelque part, quand vous faisiez le reproche, Emmanuel, d'avoir imaginé une bibliothécaire déprimée. Comment peut-on être déprimé quand on travaille avec les livres et donc avec tout l'univers qui est à vous?
Je sais, j'ai eu cette critique aussi, mais il se trouve que j'ai été bibliothécaire pendant 3 ans. Là, c'est mon expérience. J'étais pas déprimée, mais disons que la partie au public n'était pas celle que je m'étais imaginée quand j'ai commencé mes études. Et que, après, dans d'autres bibliothèques, peut-être que ça peut être un métier merveilleux, mais...
Mais et justement, pour revenir au thème principal qui est amuser ou faire la morale, est-ce que ce n'est pas dangereux d'avoir dans un roman un personnage qui justement est déprimé à cause des livres qui l'entourent ?
Mais justement, parce qu'après, par la suite, quand elle va tomber dans les livres, dans Bordemarche, elle va retrouver sa passion première pour la littérature, ce qui l'a fait rêver, ce qu'elle disait quand elle était ado et qu'elle adorait. Et elle va comprendre pourquoi est-ce qu'elle avait fait ce métier au début et pourquoi est-ce qu'elle va continuer à faire par la suite.
En fait, dans les romans jeunesse, comme tous les romans d'ailleurs, les héros sont parfois peut-être un peu stéréotypés, parfois peut-être un peu fades. Ce sont les méchants qui souvent sont les personnages les plus, je ne dis pas attachants, mais les plus hauts en couleur. Est-ce que vous pensez vraiment à faire vos méchants, Magali?
Quand j'ai livré la première version de Prix d'Alaya à mon éditeur, il y a son assistante qui m'a dit: oh, mais t'es méchant, c'est des méchants de Walt Disney, ils font peur, mais bon, on voit pas grand chose. Alors que franchement, je voulais qu'ils soient très méchants. Donc, à un certain moment donné, j'ai craint de tomber trop dans le cliché, puisque c'est quand même une personne qui a donné le sens moral contre la magie, qui à la base était quelqu'un de psychopathe et de cannibale. Donc je me suis dit, mais je vais m'enfoncer dans quelque chose d'énorme. J'ai évité la zoophilie, la pédophilie, le cannibalisme, je me suis concentrée dessus. Et donc j'estime que... Non, maintenant il sort du cliché.
Caïve, vos méchants, c'est quelque chose d'important dans vos livres?
Yes, of course they are. But I tend to have very very gray sort of antagonists. The bad guys are, I mean, they probably are, they always are the bad guys, but they are not only evil. Because most antagonists are the protagonists of their own story. The bad guys are the good guys of their own story, you know, because they need a solid motivation for what they do. It's not enough to just say this guy is bad and that's the reason why he does all the stuff he does. You have to give them a character, motivation, and nobody sees himself or herself as a bad guy. I guess. Does that make sense?
Alors, mes méchants dans mes romans ne sont pas uniquement méchants. En fait, ils évoluent dans une sorte de zone grise. Ils ne sont pas que mauvais, que méchants. Alors, dans le cas de l'antagoniste, donc le contraire du protagoniste, je pense qu'il est important aussi d'expliquer d'où ils viennent, d'expliquer leur histoire, d'expliquer leur motivation. Parce que le méchant n'est pas à ses propres yeux méchant, en fait. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il est important d'expliquer la motivation, le point de départ de la méchanceté du méchant.
C'est ça, la morale.
Et that's the moral.
It is.
Ouais. C'est d'expliquer les gens, c'est d'expliquer comment ils se comportent. Et pourquoi ils se comportent comme ça.
Ok, yeah. If you view morale in that view, yeah. Okay. Then it is.
Dans Border Marge, le méchant, c'est Silas, non? Alors, comment vous l'avez imaginé, ce méchant?
Moi, j'ai voulu en faire un vrai méchant de papier. Il a un vrai parcours de méchant. J'ai vu qu'il ait une certaine place qu'on trouve repoussant et en même temps qu'on ait une certaine admiration pour lui. Mais il y en a deux méchants en vrai. Et disons que Silas va avoir un parcours de méchant jusqu'au bout et que l'autre, Angus, va évoluer en fonction des humains qui vont rentrer dans Bord de Marge.
Marie, vos méchants, Marie.
Alors, moi, mes méchants, c'est un peu particulier. En fait, ça dépend des tomes. Le tome 1, il y a un méchant officiel, donc c'est le roi usurpateur, c'est celui que mon héros va devoir affronter. Et il y a l'adversaire, et c'est Orest, en fait, c'est le deuxième personnage principal. C'est celui qui va être l'adversaire absolu de Mie au début, et finalement, ils vont tomber amoureux. Mais pendant tout le livre, ils n'ont pas arrêté de se combattre, et c'est vraiment celui qui, au début, va lui mettre des bâtons dans les roues. Et je trouvais ça intéressant que l'adversaire, justement, soit du côté de l'héroïne, en fait, qu'on lit en continu. Parce que l'usurpateur, on le voit dans le tome 1, mais en fait, c'est un opposant, mais un opposant qui apparaît deux fois dans le roman. Tandis que le tome 2, là, il y a vraiment un groupe de méchants, en fait. Il y a un méchant qui s'appelle le Sabres, qui remplace l'usurpateur. Et en fait, c'est là aussi, j'ai voulu apporter un peu de nuance, parce que c'est pas vraiment un méchant de base. C'est quelqu'un qui est recruté par la reine de la Déléane pour venir reprendre le pouvoir en Udrinien. Et le vrai méchant, en fait, c'est la reine qui est cachée, et tous les deux, ils sont élevés grâce à des chimères, en fait. C'est la créature qu'on voit sur la couverture, ici. Et les chimères, ce sont des créatures télépathes qui peuvent communiquer entre elles et qui peuvent relier la reine au Sanres. Et en fait, c'est comme ça, c'est un peu le côté assez fourbe de l'affaire, parce qu'on croit qu'il y a un méchant, mais en fait, il y a un vrai groupe, et celle qui organise tout, elle est cachée. Et ça va être la grosse surprise quand elle va apparaître, parce que personne n'attendait le tour.
Kai, dans le premier tome du Peuple des Nuées, il y a la princesse Alessia, une jeune princesse qui est une vraie peau de vache. Mais je suppose que derrière... son bon cœur, sa curiosité et tout ça vont transparaître dans le deuxième tome ou le troisième.
Oh yes, she grows into actually a secondary hero. She becomes one of the positive person characters in the book. So she's very important in the especially in the third book. So that's what I meant earlier. When I started to characterize her, I made her, quite bitchy, and quite. You were not supposed to like her as reader, but then I introduced an element of change to her, and I think that's always important. Characters have to change. Stories are all about change, and so. She changes to some sort of protagonist, positive protagonist in the end of the story.
Oui, pour ce qui concerne Alicia, bien, elle deviendra un personnage secondaire, mais un personnage positif, avec une personnalité très positive. Dans le premier tome, elle a un rôle très très important, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de l'importance de faire évoluer les personnages. Donc, au départ, c'est quelqu'un de très très déplaisant et que le lecteur a beaucoup de mal à aimer, mais pour moi c'est important de faire évoluer les personnages, et donc elle va évoluer de manière positive dans les tomes ultérieurs.
Kay disait que la littérature est sur le changement. C'est le changement des personnages. Vous pensez ça aussi, Magali?
Je sais que je n'ai pas écrit pareil mes deux bouquins, que je pense que moi, je suis en train de changer au niveau de mes personnages, de ce que je veux qu'ils soient plus réalistes, plus... C'est une histoire qui se passe après une quête. Justement, je suis sortie du moule « on est sur une quête ». Non, ça se passe 9 ans après. Qu'est-ce qui se passe 9 ans plus tard? C'est une simple histoire de famille. Donc c'est un enfant qui refuse la mésentente entre ses parents, et il va se retrouver complètement au sein de tout un combat qui le dépasse complètement. Il va sortir de l'enfance où en fait il est promu normalement à un avenir. Il sera sorcier obligatoirement, et pourtant, comme son père est gaillé de l'acier, il va toucher ce métal qui est interdit aux sorciers, du moins, qui les torture. Donc ça fera de lui un être invulnérable, donc tout le monde veut le détruire. Donc c'est... Oui, je crois que j'ai voulu casser le code de la quête, et je suis en changement, moi aussi.
Et pour vous, les héros doivent changer, c'est ça le centre même de ce que vous écrivez?
Alors, si les héros doivent changer, je pense que ça dépend pas mal du caractère du personnage, parce que si on a déjà un héros qui a un caractère bien affirmé, etc., je pense que c'est très intéressant justement de faire la quête avec ce personnage, le caractère déjà établi. En avis, ça peut apporter un vrai plus. Mais après, c'est vrai que dans le cas d'Héritage et d'Arcère, moi j'ai choisi un peu le roman d'apprentissage. Alors c'est vrai que mon héroïne au début, c'est un peu comme Cal. Au début, c'est vraiment une petite peste insupportable. Et au fur et à mesure, en fait, elle a été façonnée par un certain idéal, par la société dans laquelle elle vit, puisqu'elle est fille adoptive, même si elle ne sait pas encore d'un comte et d'une comtesse. Donc vraiment, pour elle, le monde va être à ses pieds, et quand sa quête va lui tomber dessus et qu'elle va se retrouver sur les routes avec juste son petit pouvoir et un sifflet pour retrouver le trésor de sa famille, et elle ne sait pas où il est, là elle va être bien obligée de changer, elle va être obligée de se faire ses propres armes, et là il y a vraiment toute une évolution en fait au cours de la trilogie.
L'évolution du personnage, des personnages.
Tous mes personnages évoluent, les personnages principaux comme les personnages secondaires. À partir du moment où ils passent dans un autre monde, ils découvrent quelque chose de complètement différent pour eux et ne peuvent qu'évoluer.
Kay, en fin de compte, vous pourriez vous permettre d'avoir une fin amorale à vos bouquins, des héros négatifs, des quêtes qui ne sont pas abouties? Est-ce qu'un écrivain peut se permettre cela dans une littérature jeunesse?
You probably could.
C'était très joli.
Probably. You probably could do that, but I usually don't. I'm not a big fan of you know, huge happy ends with kissing in the sun, sunset and all that stuff. But actually, the new book I just the new young adult book I just delivered to my publisher ends with a very 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 dark scene. In the last sentence, the protagonist shoots his father. And it's just in the last sentence. So you can do that, but it's the father was also the antagonist of the story. So there should be some kind of you know, moral reason to do something like that.
Peut-être, mais c'est pas en fait quelque chose que je choisis nécessairement. En fait, je choisis de ne pas terminer sur une note amorale. Je ne suis pas nécessairement fan du happy end, mais bon, dans mon dernier livre qui est destiné aux adolescents, le thème est vraiment très très obscur, et à la fin, le protagoniste tue son père, tire sur son père, mais il faut savoir que le père était l'antagoniste de l'histoire, donc c'est une fin quand même morale.
Sur la même question, c'est-à-dire tout se permettre, Magali.
Ben, je dirais que celui que j'avais destiné pour une jeune fille de 14 ans, je ne voyais pas le faire amoral. C'est, je pense que oui, on est un peu faussé, on veut toujours un peu protéger les enfants et leur raconter des jolies histoires. Maintenant, je ne dis pas qu'un jour, je n'écrirai pas une histoire amorale.
Ça vous fait envie aussi d'écrire des histoires amorales ?
Alors je sais pas, mais pour l'héritage d'Arsa, c'est sûr que je suis un peu comme Carl. Les happy endings, c'est pas trop mon truc. Alors j'aime bien faire généralement une fin en demi-teinte où ils s'en sortent pas, indemnes. Je trouve que en plus c'est plus constructif par rapport à toute la quête qu'ils ont faite. Donc voilà. Après. Alors moi, j'ai aucun scrupule à tuer des personnages. Des fois, ils décident de mourir sans que rien décider en plus. Donc, ça, c'est vrai que mettre des coups durs de temps en temps dans un roman, je trouve que c'est voilà, c'est formateur, ça apporte à l'histoire. Et même si après, le lecteur le déteste, je trouve que ça apporte quelque chose. Même si, bon, les morts gratuites, c'est vrai que je ne suis pas forcément fan. Mais qui fassent toute leur quête sans qu'il leur arrive rien, je ne pourrais pas. J'aime bien leur mettre des obstacles.
Moi, je mets des obstacles uniquement pour qu'il arrive quelque chose de rigolo dans mon histoire. Mais j'avoue que bord de marche, c'est mon caractère. Moi, je suis plutôt optimiste et j'assume mes happy ends. Donc, il y en a des deux.
En fin de compte, je vois que vous n'aimez pas trop les contraintes, que vous vous ébrouillez chaque fois de tout ce fatras. Est-ce que vous écrivez en fin de compte pour dire quelque chose ou pour vous amuser, Kyle?
Mostly to enjoy myself, yes. I'm doing this full time since 1995, so it should better be something I really like to do, and it should be fun to do. And usually I write mostly for myself. I mean, most authors will tell you that, but that's just the truth. And it's not about messages or educating people, and I'm not a teacher or anything. It's just I want to tell a good story, and the first person I have to tell it to is myself. So. It's all about having fun. Yeah, sure.
Magali.
Alors, j'écris essentiellement pour le plaisir. J'écris à plein temps depuis 1995, donc c'est très important pour moi d'y prendre plaisir, d'y trouver mon compte. Alors, c'est le cas, je crois, de la majorité d'entre nous, de la majorité des auteurs. Je n'ai pas un message à transmettre. Je ne suis pas professeur. J'écris d'abord et avant tout pour raconter une histoire et je dois y prendre plaisir, sinon ce n'est pas la peine.
Magali ?
Bah, disons que j'ai un bagage scientifique à la base. Par mon premier roman, j'étais vraiment sortie complètement du cadre. Et pour le deuxième, j'avais envie de réutiliser tout ça. Donc, c'est mon propre jeu d'avoir voulu faire un changement climatique, un archipel avec ma faune, ma flore. Je connais toute la biologie de mes bestioles. Et après.
Elle est biologiste.
Et donc, j'avais l'histoire, je voulais que ce soit un après-quête. Et ensuite, toute la société, l'architecture, le commerce, tout ça, c'est venu après. Et moi, en général, j'ai le début, la fin, quelques scènes au milieu, et je pars au hasard. Et c'est mes personnages secondaires qui grossissent ou s'éclipsent, etc., et qui font toute l'histoire. Mais c'est du jeu, pour moi, oui, franchement.
Emmanuel.
Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, un écrivain, j'espère qu'il écrit avant tout. Aussi pour se faire plaisir, je ne veux pas passer un an de ma vie à écrire un truc horrible que je n'arriverai jamais à terminer. Ou que, enfin, comment défendre après quelque chose qu'on n'aime pas voilà. Après, je pense que si on se fait plaisir, ben, on fait plaisir aussi au lecteur derrière parce qu'il le sent.
Moi, je n'ai pas apporté grand chose au débat, mais je pense aussi qu'on écrit une histoire pour s'amuser parce qu'il y a une idée de départ qui nous inspire beaucoup. Et voilà, on écrit pour soi-même, mais je pense qu'on écrit aussi pour le lecteur. On prend le pli de redire ce qu'on a fait en se demandant si le lecteur va comprendre. Donc voilà, oui, c'est pour s'amuser, mais aussi pour le lecteur, pour amuser le lecteur, intéresser.
Est-ce que c'est aussi pour vous échapper de ce monde, Magali ?
Totalement. Le premier a été écrit parce que j'étais en train de préparer un concours et que franchement, je n'arrivais pas à me concentrer dessus, que je n'en pouvais plus. Donc, oui.
Carrie ?
If it's an escape from the river, maybe. I'm not so sure. I'm somebody who doesn't like to travel a lot. I don't have to go to China or somewhere. I just have to write about it. So I make that kind of reality up for myself. And afterwards, it feels like I have been there. So it becomes some sort of reality to me. I have written books set in Africa or somewhere. And afterwards, I really remember those places, those locations, as if I have been there on holiday. So reality and fiction tend to mix in my head sometimes.
Et vous ?
Pas sûr, en fait. Je ne pense pas que j'écris pour fuir de la réalité. Je n'aime pas beaucoup voyager, et donc, en fait, quand j'ai écrit, par exemple, un livre sur l'Afrique, et j'en ai tellement parlé qu'à la fin, c'est devenu vrai pour moi, et la réalité et la fiction se mélangent un petit peu pour moi.
À vous bien, oui. C'était le bon moment.
Quand j'étais bibliothécaire, j'étais pas dépressive, hein. J'ai quand même exagéré pas mal les traits de durée. C'est vrai qu'il y a des moments où je m'ennuyais un peu et je rêvais qu'il y ait un personnage qui sort d'un bouquin ou qui tombe entre les étagères pour venir m'embarquer dans son histoire et dans son aventure.
Alors, moi, pareil, c'est une forme d'évasion, puis c'est aussi parce que c'est le genre dans lequel spontanément j'écris depuis que j'ai découvert la fantasy, etc. Même quand je ne connaissais pas vraiment, j'ai toujours écrit dans le fantastique. Donc, pour moi, bah, c'est le genre qui permet le plus d'inventer, de réinventer. Donc, voilà, c'est le genre qui m'épanouit le plus.
Merci. Il reste 5 minutes. Y a-t-il des questions dans la salle ? À l'un ou l'autre de nos invités. Allez, posez la deuxième question. La première est toujours la plus difficile. Oui.
À partir du moment où on est comme ça, auteur catalogué jeune, est-ce que justement le retour à un roman plus amoral est possible en bref, parce que. Voilà, quand on est catalogué jeune, on s'interdit sans doute des choses qu'on aimerait mettre et que finalement on s'interdit quand même. Donc, non, ça ne peut pas. On est chez les jeunes. Comment est-ce que ça fonctionne?
Oui, oui, la question est claire. Okay.
Well, as I said, I began to write books for adults, and it was just after maybe 6 or 7 years that I changed to that I also wrote for young adults, and afterwards I tried to to always write one book or one trilogy for younger audiences and another book for adults. So I try to mix it. But when my younger books became bestsellers in Germany, it became a bit more difficult to sell my adult books, because booksellers tend to be very booksellers really have a problem to put the book in the right section of the bookstore. So some of my adult books suddenly were in the young adult section and the other way around. So that became some kind of problem. Yeah.
Alors, moi j'ai écrit tout d'abord pour les adultes, et puis il y a 6 ou 7 ans j'ai commencé à écrire pour les jeunes, pour les adolescents. Mais j'ai tendance à alterner livre, une trilogie, ado-adulte. Le problème c'est que quand je suis devenue un best-seller en Allemagne, c'est pour les libraires qui ne savent plus trop dans quelle catégorie me mettre. Parfois ils mettent mes livres pour adultes dans la catégorie ado et vice-versa. Et donc c'est devenu un petit problème le fait d'écrire pour les deux catégories.
Emmanuel, par exemple, après le deuxième ou le troisième de la série, est-ce que vous pourriez dire, allez, maintenant, je fais un polar, ou je fais un bouquin très, très, très noir, de dark fantasy, avec plein de morts, etc.
Je pense que j'en suis pas au premier, donc après le second qui va venir, j'ai énormément d'histoires dans la tête, pourquoi pas.
Non, parce que la question était quand même, est-ce qu'on n'est pas formaté aussi par le format jeunesse dans lequel on se trouve, et duquel il est difficile de s'échapper, peut-être.
Mais comme je dis, c'est le premier, alors après, comment ça va se passer?
Et ça, je pense que ça dépend, dépend beaucoup des projets qu'on a. C'est vrai que si on écrit pour la jeunesse, soit l'auteur lui-même, soit l'éditeur va censurer, et puis après, rien ne nous empêche après d'essayer un autre genre, une autre ambiance. Moi, c'est pareil, j'en suis qu'à mon deuxième, enfin, je suis en train d'écrire le troisième. Donc après, moi, j'ai d'autres projets qui sont beaucoup plus sombres. Et voilà, après, je verrai bien à quel public ça s'adresse. Mais a priori, l'auteur, il est libre. C'est plutôt l'éditeur qui va mettre dans son cadre.
Qu'est-ce que j'allais dire, les contraintes, on se les met soi-même. Enfin, le premier, comme je l'ai destiné à une jeune fille de 14 ans, oui, je me suis mis des contraintes. Le deuxième, j'avais pas de limite, j'en ai pas mise. J'ai un ami qui me disait, ouais, mais j'en ai marre d'écrire de la fantasy parce que on peut pas vraiment dire de gros mots, on peut pas. Je lui ai dit, pourquoi? Et pourquoi? Il faut justement sortir du cadre, et moi je l'ai écrit comme j'aimerais le lire, point.
Une troisième question? Ah, ok.
And I think the key is to have two publishers. I have one publisher for my young adult work and one publisher for the adult books. So that helps in deciding which. No, the other way around. I have my contract before I have the book. I make the contract with my publisher. And afterwards, I tell them what the book is about. So when I have a contract with my adult publisher, I know I will write an adult book. And if I have a contract with my young adult publisher, I know I will write a book for younger readers. So that helps a lot in deciding what kind of book I want to write.
Pour moi, c'est une question de contrat. En fait, si je travaille avec deux éditeurs, et c'est-à-dire qu'il y en a un pour les adultes et un pour les adolescents. Et quand j'ai un contrat de la maison d'édition pour adultes, et bien, d'abord je signe le contrat et après j'écris le roman pour les adultes. Et après, quand j'ai le contrat avec la maison d'édition pour les adolescents, et bien là j'écris pour les adolescents. Donc c'est une question de contrat.
Et bien voilà, il est quasiment 11h. Donc merci à nos invités, Kai Meyer, Magali Segura, Marie Caillet, Emmanuel Nock. Merci aussi à Jocelyne Bourbonnière, que je n'ai pas toujours laissé parler tout de suite, excusez-moi. Et merci à vous d'avoir été malgré tout assez nombreux. Merci beaucoup. C'est pas ce que je faisais hier.
Je sais.
Fois, tu vois.
Je marche. Oui, ça va bien. Je voulais juste que tu penses à faire à chaque fois qu'il y a quelque chose, le nombre de personnes en groupe.